Vous écoutez
RMC. RMC.
L'Afterfoot.
Gilbert Bribois.
On est là avec Jérôme Roten, avec Florent Gautreau, avec Daniel Riolo, avec les drôles de dames, à l'exception de Simone Rovera, qui sera là demain soir, puisqu'il est soir à l'Inter, qui est en train d'exploser tranquillement Lecce. 4-0, hein, je crois, si je dis pas de bêtises, entre les deux équipes en deuxième
Lecce
mi-temps.
Lecce est une ville absolument magnifique.
Oui, bah pas forcément 3-0, pardon, foot, hein. Pour l'Inter.
Est-ce que Lecce a la place
c'est
petit
peu en jouer...
menton, quand même?
Ah, pitié. Pitié.
T'as vu que ce débat a beaucoup fait réagir.
Ah, tu sais que les représentants de la ville de Menton, ils étaient.
Oui, non, mais ok, c'est tes amis, mais je m'en fous.
Mais c'est pas mes amis.
Mais surtout, alors encore moins avec Lecce, quoi. Si un jour t'as la chance d'aller
je
visiter cette ville, c'est.
Donc,
t'arrives à te lécher le menton d'ailleurs.
Pourquoi le menton?
Attention, oublions Lecce pour reparler foot allemand. Polo, on va parler du Bayern et de Dortmund dans quelques instants, mais raconte-nous ce qui s'est passé en Allemagne ce week-end avec la VAR, parce que j'ai l'impression que. Les débats sont plus que permanents et même plus forts qu'en France en ce moment en Allemagne.
Ah, mais j'ai le sentiment que c'est beaucoup, beaucoup plus fort en Allemagne qu'en France. N'oublions pas, je donne juste un seul exemple, que l'année dernière, le responsable des arbitres et de la VAR a été viré de son poste parce qu'il était supporter de Schalke et il avait tendance à favoriser le club de Gelsenkirchen par rapport aux autres.
Pas mal.
Mais c'est systématique tous les week-ends et au-delà de la technique et des débats qu'on peut avoir ou les désaccords qu'on peut avoir sur sur la vidéo, le problème c'est qu'il n'y a aucune homogénéité entre les décisions arbitrales, match après match, week-end après week-end. Et ça devient insupportable. C'est-à-dire que, y compris les journalistes sportifs qui commentent les matchs allemands, c'est-à-dire les journalistes de Sky, par exemple, ils en ont ras-le-bol. Parce que le vendredi, ils voient une action qui ressemble à celle du samedi, et à chaque fois, c'est pas la même décision qui est prise par l'arbitre. Et c'est très intéressant.
Quand c'était des arbitres humains, Polo.
Oui.
Et justement, ça ne gênait pas parce qu'on disait chacun sa sensibilité, l'interprétation. Mais à partir du moment où on introduit la machine qui doit dire la vérité, on veut que ce soit la même pour tous.
Voilà, le mythe d'Icare.
Voilà.
C'est, bon, alors, ce qui est très intéressant, c'est que pour la première fois, Markus Merck, que vous connaissez peut-être, qui est un ancien arbitre international allemand, qui était à la Coupe du Monde 2006, et je crois qu'il a été élu quelques fois meilleur arbitre mondial, si je raconte pas n'importe quoi, a fait une interview assez intéressante, et lui, il parle carrément de, tu vois, Sodome et Gomorre, quand on lui parle de la VAR, c'est-à-dire que tout le monde fait n'importe quoi en fonction de ce qu'on a envie. Et moi, ce qui me perturbe, donc je trouvais que le fait qu'un arbitre enfin contre la VAR était assez intéressant parce qu'ils sont quand même assez corporatistes et je trouve ça assez intéressant qu'ils disent ça comme ça, mais moi ce qui me fait peur Gilbert, tu sais qu'il n'y a pas que 3 tondus et 2 pelés dans les stades allemands et ouais. Je vois monter dans les tribunes une forme de violence par rapport aux décisions arbitrales et je n'aime pas ça du tout. Ça s'est vu à Schalke samedi, donc pour le Top Spiel, le match à 18h où tu as le public qui était chauffé à blanc parce que l'arbitre a fait n'importe quoi. Il y avait 3 ballons qui ont touché la main très rapidement, l'arbitre est même pas allé voir, donc ça faisait chauffer ça fait chauffer le public d'une façon assez impressionnante. Il y a eu la même chose lors du match le lendemain entre le Hertha et Wolfsburg où l'arbitre dès la première minute annule un penalty qui au moins à l'œil nu était évident et 30 secondes après il se passe la même chose pour Wolfsburg dans l'autre carré de terrain et le problème c'est qu'il va même pas vérifier à la VAR. Le public, il y avait 43 000 personnes au stade, ils en peuvent plus. C'est assez intéressant. Si tu rajoutes à ça les cartons qu'on met aujourd'hui aux entraîneurs, qui je trouve d'ailleurs avaient une façon de compenser un peu les manques, je veux dire, on ne peut pas s'exprimer, mais au moins, tu vois, le coach, il peut un peu représenter toute la frustration qu'il peut y avoir.
Hein, vous avez vu, Loret, par exemple, a pris un carton jaune hier lors de Strasbourg, donc c'est une nouveauté également en France.
Ça devient un peu n'importe quoi. Et moi, je dis la VAR, au-delà de la technique, des débats qu'on peut avoir pour ou pas ou contre, etc., c'est que je ne vois aucune homogénéité chez les arbitres. Et c'est week-end après week-end, semaine après semaine, match après match. Et il n'y a pas, encore une fois, si c'était juste, j'ai envie de dire, une catégorie qui disait on n'aime pas la VAR. Non, c'est pas ça. Les journalistes en auront le bol, les joueurs en auront le bol. Certains entraîneurs commencent à dire c'est pas mon football, c'est fini. Le public, j'en parle même pas. Non, mais je rappelle, il y a en moyenne entre 45 000 et 50 000 spectateurs par match en Bundesliga. Si ça chauffe dans des matchs comme Francfort, par exemple, où il y a des publics qui sont connus pour être très chauds, je sais pas ce que ça peut faire un jour. Donc va falloir un moment, se poser les bonnes questions parce que ça me semble extrêmement tendu. Je vous ai envoyé une petite photo un peu humoristique.
Oui, on va la voir sur RMC Sport News.
D'accord. Et je voulais envoyer un peu pour voir ce que c'est. Mais ça, c'est bien, c'est de l'humour. Mais je crois que le problème est beaucoup
plus
grave.
C'est-à-dire qu'on voit le centre du Var en Allemagne, en fait, décoré avec des écharpes et des écussons du Bayern sous-entendu.
Voilà, c'est bon, ça. Bah, donc, voilà. On est à Cologne, en fait. Donc, il y a un peu le centre technique pour la Var, là où se prennent toutes les décisions, etc. Et en fait, on se rend compte que le Bayern est très avantageux, notamment sur le match contre Schalke.
La ville de Lukas Podolski.
Voilà. Et donc c'est un peu et ancien bavarois au passage. Et le donc c'était assez intéressant de montrer ça, mais on en rigole. Mais le problème c'est que ça devient grave. Moi j'ai un peu peur. Je te dis honnêtement, je dis pas ça pour voilà faire du buzz ou n'importe quoi. Mais quand j'ai vu le public de Schalke qui en avait ras-le-bol de l'entraîneur du coup de l'arbitre pardon, qui faisait n'importe quoi dans le décisionnel, 62 000 personnes au stade, faut faire attention quand même.
Voilà pour la situation de la VAR en Allemagne actuellement. Reprenons maintenant le cours de l'actu dans vos pays respectifs. Fred, tu voulais parler de Zidane qui, paraît-il, est énervé.
Bah oui, bien sûr, j'étais au stade samedi en fin d'après-midi, début de soirée pour ce match nul qui avait des relents de l'année dernière.
Tu sais, le. Sur la sellette, tu penses?
Tu penses, non. C'est chaud ou pas, non?
Et je vois que les blagues n'ont pas changé. Hein.
Non, bah, je sais pas.
Non, on a Fred, reste zen, comme tu sais.
Mais je reste zen! Ouais. Mais tu sais, moi, maintenant, je suis dans l'émission de Jérôme aussi, donc tu vois, on s'entend hyper bien. Guest star dans cette émission, tu vois, donc c'est comme régal. Ça qu'il m'achète, quoi. Non, mais c'est. Il était vraiment énervé parce que. Depuis que je le connais, à sa tronche, après les matchs, je vois s'il est vraiment déçu ou si ça passe. Là, il était vraiment très très déçu. But encore une fois de Karim Benzema.
Plus, comme ça.
Très beau, 82e minute, 88e. Vraiment,
Benzema il marque quand même depuis le début de la saison.
Bah, pour l'instant, il y en a deux buts et une passe décisive en deux matchs.
Ouais.
Et bon, le Real, la première période était plutôt sympathique, c'était agréable à voir, mais la deuxième période, ils ont arrêté de jouer, comme dit Zizou. Il faut qu'on arrête. Il faut jouer 90 minutes et pas 50 ou 60. Et le Real Madrid, après la 82e minute, c'était déjà pas terrible. Aujourd'hui, le plus dur est fait. Et puis, il y a eu un flottement dans la défense avec un Varane qui a été un peu hésitant sur l'attaque de Valladolid. Et finalement, le Real a acheté deux points à la benne à ordure, quoi. Ça, c'est vraiment ridicule parce que tu fais un bon match, tu gagnes à Vigo, vraiment en jouant bien, en montrant beaucoup de solidarité entre les joueurs. Et là, c'est les fantômes de la saison dernière qui réapparaissent.
Juste parenthèse, tu parles de Benzema parce qu'hier soir, en rentrant après l'after et après l'énième discussion autour de la formation des joueurs français et de ce qu'on fait comme joueurs en France. Eh bien, je cherchais, en fait, sur les 10, 15, 20 dernières années, les joueurs de classe internationale formés dans notre pays. Et bien, en fait, le seul, c'est Benzema, que j'estime totalement formé français.
Hein. Oui, parce que on parlait de Griezmann tout à l'heure, il n'est pas formé en France.
Il est formé parce qu'il s'en va très très tôt et il apprend.
Il avait joué en équipe première à Lens, par exemple.
Ouais, mais bon, il part très tôt.
Il était, il était à moitié formé. Il arrive à 19 ans.
Voilà. Donc, j'enlève Pogba qui part très tôt, j'enlève Varane, j'enlève évidemment Griezmann qui n'est pas formé français.
Non.
De classe internationale, sur les 15 dernières années, il n'y a que Benzema. Pour moi.
Giroud n'est pas de classe internationale?
C'est un bon joueur,
Mbappé,
mais non, on ne parle pas de.
Mbappé.
Laurent,
défend
tes points en jeu. Comme il est tellement jeune, je n'ai même pas pensé à lui.
Mais voilà. Il est formé à Tours.
Non, mais après, vous pouvez me corriger parce que c'est en rentrant hier, on avait une discussion avec Kevin sur la formation, les mecs du PSG qui vont dans les clubs.
Il y a une petite liste.
Non, mais il y a une liste, mais moi je parle de classe internationale, vraiment, quoi. Affirmée. Ouais,
sur les. Tu débarres ta 11e saison au Real Madrid.
Voilà,
quoi.
C'est ça. Mais il n'y a que Benzema.
Ouais, mais classe internationale, ça dépend de classe, c'est-à-dire techniquement, tu parles.
Non, mais le joueur qui s'impose dans un grand club, qui gagne des titres, qui est d'un niveau.
Mais là tu parles vraiment du top du. On va dire du top 20.
Ouais, du panier,
classe internationale, quoi.
Classe internationale, Koscielny, on peut considérer que c'est la classe internationale, par exemple. Il n'a pas gagné 1000 titres avec Arsenal. Mais c'est pas le top 20 mondial.
Sauf que sur les 20 dernières années, je sais pas si je le mets dans les 10 meilleurs défenseurs centraux qu'il y a eu. Alors que Benzema, dans les 9 sur les 20 dernières années, il est dans le top 10.
Juste, c'est fini en Ligue 2 rapidement, Xavier Grimaud.
Oui, c'est terminé avec la victoire de Valenciennes, 1-0. Le Chergui sur pénalty en première période. Guingamp a touché la barre en deuxième. Mais voilà, Guingamp 5 points sur 15 pour ce début de saison. Valenciennes est quatrième.
Et donc, et ceux qui vont répondre, Ribéry, évidemment, Ribéry n'est pas dedans puisqu'il n'est pas process formation France. Ribéry ne compte pas. Il n'est pas dans un process de formation.
Non, il a un parcours très
atypique. Ouais, il a un parcours atypique.
Ouais, oui, il n'est pas dans le process formation.
Ouais, il est pas
donc
il ne compte pas.
Non. Il a tout fait en dehors de ça.
Non. Tu dis, ça compte pas. Sissoko, ça compte pas.
Kanté, c'est pareil. Kanté, pareil que Ribéry d'ailleurs.
Oui, il a un parcours à part.
Pareil que Ribéry.
Donc non, mais ceux que tu as cités avant, c'est des joueurs qui ont eu des carrières internationales, mais c'est pas ce que j'appelle la classe internationale, quoi. C'est pas top.
Ouais, on parle pas de. Comme dirait Polo.
Je vais vous donner un nom, et on en parlera beaucoup dans les années qui viennent. Oui. Il y a eu un petit événement en Camp Nou hier soir. Ansu Fati, le deuxième plus jeune joueur de l'histoire du Barça. À avoir disputé un match de Liga à 16 ans et quelques mois. La dernière fois, c'était dans les années 40. Mmh. 16 ans, il est en équipe junior. Oh, c'était impressionnant. Hein. Ils sont comme des fous en Espagne.
Et personne ne se méfie parce qu'on au Barça, on en a eu beaucoup, des très jeunes joueurs comme ça qu'on a vite oublié, de Borjan Kirchis.
Bojan n'était pas si fort que ça.
Comment s'appelait le petit d'origine marocaine, là, très très bon. Mounir. Il n'y a pas très longtemps, il y a Mounir à peine. Là. Ouais, voilà.
C'est... Babrahim.
Mounir.
Mounir.
Et en fait, là, je voulais rebondir sur. Tu voulais en venir à quoi, en fait, quand tu disais la formation française.
Non, c'est parce que comme il a parlé de Benzema, qui a été bon et que ça m'a fait penser à hier soir.
Ah, mais c'est un pur produit de la formation à la française.
Quand je suis rentré hier soir, je me disais, mais il est joueur 1 et en fait, il n'y avait que Benzema qui m'apparaissait en process formation dans un club comme Lyon, machin.
Oui, voilà. Mais à l'inverse, si
donc,
tu veux.
Donc en quoi c'est pour en déduire que.
Je disais que ça faisait peu.
C'est
ça, je disais que ça faisait peu.
De
mecs un peu leaders, un peu charismatiques, qui ont été dans des gros clubs.
Ouais, mais sauf qu'en restreignant ton truc à un top international, tu oublies tous les gens tous ceux qui sont autour un peu de ce cercle.
Il y en a eu beaucoup, bien sûr, je pense à l'OL en particulier,
qui est un pourvoyeur énorme.
Il y en a pas des tonnes non plus à l'OL. Hein.
Ouais, mais quand même à chaque fois qu'on voit
France, il y en a pas non plus des tonnes à l'OL. À l'OL, il faut voir ce que va devenir Umtiti pour l'instant à l'arrêt, le pauvre. La Cazette, j'arrive pas à comprendre pourquoi, mais il ne joue pas à Arsenal.
Umtiti qui revient chez les Bleus, qui joue titulaire au Barça, tu peux pas dire que toi c'est pas une réussite de la formation française.
On n'est pas en train, ça n'a rien de comparable avec Benzema. 10 ans, régularité, les titres,
s'il vous plaît.
La formation en France, on en est d'accord.
Non, mais si t'enlèves ceux qui sont ceux qui échappent au process classique, alors que t'as aussi, même ceux qui échappent au process, même les Ribéry autres, quand ils rejouent en national ou ailleurs, ils récupèrent aussi des coachs, des entraîneurs qui sont à leur façon des formateurs. Le Kanté, quand il fait ses gammes ailleurs, ou Ribéry quand il est à Boulogne, il retombe aussi sur des gars qui lui apprennent des trucs. C'est pas la formation. Non, mais tu veux dire, t'enlèves ça et t'enlèves le top 15, enfin tu t'en tiens au top 15. Ça enlève aussi beaucoup de bons joueurs qui ont appris beaucoup de choses dans les centres de formation français.
Oui. Julien voulait nous parler de Tottenham, qui est la grosse déception pour l'instant de la saison en Angleterre. Julien.
Qu'est-ce qui se passe effectivement, Daniel? On attendait beaucoup de cette équipe de Tottenham, avec notamment les recrues, Ndombele, Lo Celso et tout ça. C'est vrai que pour l'instant, on reste sur notre faim. Laide défaite contre Newcastle ce week-end, c'était vraiment horrible. Ils ont eu beaucoup le ballon, hein, 80% de possession environ, seulement 3 tirs cadrés, aucune créativité, un manque d'énergie, un manque de fond de jeu aussi, qui est très très inquiétant quand même de la part de Tottenham, qui irait donc sur une victoire compliquée contre Aston Villa lors de la première journée, un match nul miraculeux à Manchester City la deuxième journée, et donc cette défaite contre Newcastle dans la troisième journée. Harry Kane, qui pour l'instant, à part ses 2 buts contre Aston Villa au premier match, est l'ombre de lui-même, et c'est vrai que la mauvaise fin de saison dernière, en fait, qu'on n'avait pas trop calculé parce qu'il y avait la Ligue des Champions, parce que c'était beau ce qui se passait en Europe, et ben peut-être que finalement le problème vient d'ailleurs de la fin de saison dernière. Déjà en championnat, vous avez montré énormément de limites, notamment défensivement, avec Hugo Lloris qui doit déjà faire beaucoup d'arrêts, une défense qui est pas très très solide, et c'est vrai que pour l'instant Tottenham, c'est vraiment très compliqué.
Bon, à suivre pour Tottenham.
Et des
bien
critiques
sûr.
Beaucoup autour du club, Pochettino, des questions qui se posent, je sais pas.
Sur Pochettino, sur la manière
lui,
aussi
il vit ça comment, il réagit comment.
Lui est plutôt reste assez magnanime en conférence de presse. La grosse question, c'est Eriksen, en fait, qui est quand même leur joueur le plus créatif. On connaît l'entente entre Eriksen et Kane, par exemple. Mais Eriksen, aujourd'hui, vu qu'il veut partir et qu'il est encore capable de partir jusqu'au 2 septembre...
Mais où il peut aller, c'est quoi l'idée, qu'est-ce qu'il se dit là-dessus, il peut aller où?
En Espagne,
lui,
Julien.
Lui, il veut aller en Espagne. Bah, il veut aller en Espagne. Il aimerait beaucoup. Il rêve du Real Madrid, mais bon, je pense que à moins que le Real Madrid n'arrive pas à réaliser le plan A, le plan B, le plan C, et lui doit être le plan D peut-être. Fredo nous avait expliqué que sa mauvaise performance en finale de la Ligue des Champions avait un peu refroidi le Real quand même. Lui continue d'y rêver. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, tu peux pas le faire jouer.
Je trouve qu'il a un profil Real.
Pas trop en tout cas, parce que s'il se blesse,
c'est un bon joueur.
Alors, mais je vais vous dire un petit truc simplement.
Quand il veut, c'est un bon joueur. Hein. C'est un très bon joueur quand il veut.
Oui, alors simplement, au Real, il y a des rapports qui ont été faits. Sa manière de se comporter dans un vestiaire le dessert énormément. Il paraît qu'il a un melon pas possible, qu'il est pas sympa, qu'il est voilà ça. Il n'est pas vraiment Zidane compatible et l'esprit Zidane compatible au Real. Je sais pas si on en a entendu parler, Julien, son comportement.
Si, ben c'est un peu l'école de l'Ajax, hein. C'est un peu l'école aussi néerlandaise à l'Ajax où on te dit très très vite que t'es très très fort, que t'es au-dessus de tout le monde et que t'es le meilleur, etc. Et je pense qu'effectivement, oui, il a un petit peu ça dans le cerveau. Et d'ailleurs, lui était convaincu pendant très longtemps qu'il irait au Real, que le Real c'était le club parfait pour lui, qu'ils allaient se jeter sur lui dès qu'ils en auraient eu l'occasion. Et c'est pour ça que finalement, il est encore un petit peu. Je pense que mentalement, il n'est pas tout à fait capable de jouer 90 minutes non plus en ce moment parce qu'il a encore la tête à un départ. Sauf qu'il y a personne pour l'instant qui veut l'acheter. Tu peux pas vraiment le faire jouer parce que s'il se blesse, après, et tu peux plus le vendre, c'est une catastrophe parce qu'au final, ils ont quand même récupéré Lo Celso pour remplacer Eriksen. Mais Lo Celso, il n'est pas encore notamment à 100% pour jouer titulaire dès le départ. Donc, je pense que c'est un peu compliqué pour Pochettino aussi, pour ces derniers jours-là, ouais, avant la fin du marché de transfert, de gérer son effectif au mieux possible.
Ça va se mettre en place tranquillement. Là, les résultats sont pas bons. Heureusement, ils ont fait nul à City, donc ça, c'est un petit peu l'arbre qui cache la forêt, mais ça va se remettre.
Ouais, c'est pas un nul vraiment mérité. C'est un nul,
non, mais bon, ils prennent un point quand même à City.
Miraculeux.
Miraculeux, certes, mais avec tous les absents. Et puis, tu sais, on parle d'Eriksen, on parle de Trippier qui avait un rôle important dans le vestiaire aussi, il est plus là. Donc, il y a
pourtant,
des manques.
Pourtant, ça c'est un Jaurier quand même qui pourrait prendre sa place.
Et dimanche, c'est Arsenal-Tottenham. Dimanche après-midi, on dirait sur RMC. Et là, s'il venait à perdre ce match-là aussi, là, ce serait vraiment, vraiment chaud.
Dans quelques instants, vas-y, Fred.
Rapide.
Attends, la question après la pub, il faut aussi qu'on parle du Bayern et de Dortmund, c'est important.
Mais ça va être rapide.
Et Francfort à 3 jours du match de l'exploit du Racing Club de Strasbourg, c'est dans quelques instants dans l'after. A tout de suite. Inter joue ce soir face à Lecce 3-0. Simone Rovera est sur place, donc Simone sera avec nous demain pour nous parler de l'Italie. Les autres sont là, messieurs, dames, à commencer par Fred Hermel, bien sûr. Fredo, bonsoir.
Hola, chicos.
Salut, Fredo.
Salut, Fred.
Ça va? Alors, Florent, moi j'ai compris ta blague. La pacte, garde, cabane. On est d'accord, moi je l'ai comprise.
Bon, c'est bien.
Polo Breitner est là également. Salut Polo.
Ah oui, je crois, ouais.
C'est vrai.
Bonsoir, salut, Polo. Super, bonsoir tout le monde.
Salut Polo.
Salut Polo.
Et Julien Laurent, c'est parmi nous. Julien, bonsoir.
Bonsoir à tous.
Salut Julien.
Salut.
Trois grands titres dans les pays respectifs de nos drôles de l'âme du soir. En Espagne, Griezmann prouve que le Barça n'a pas besoin de Neymar. Fred veut nous dire pourquoi. En Allemagne, l'Avar fout le bordel. Et en Angleterre, Liverpool impressionne. On va parler de tout ça et du reste de l'actu, hein. Bien sûr, des trois pays dans quelques secondes dans les drôles de l'âme avec vous. Le 32-16, je le rappelle, est ouvert à tout instant. N'hésitez pas si vous avez une question spécifique à Polo sur le Hansa Rostock. N'hésitez pas, il est là pour ça. À Fred sur les Ganes et à Julien sur Sheffield United, ils sont là pour ça aussi. Démarrons quand même par Griezmann, parce que Fred, tu le dis, aujourd'hui l'Espagne dit que il y a pas que toi, hein, que Griezmann a prouvé que
en
le Barça n'a pas besoin de
la comédie a assez duré, presque.
Bah oui, c'est-à-dire que franchement, alors je sais bien que c'est en même temps que le match du PSG Toulouse hier soir, mais je sais pas si vous avez pu jeter un œil sur le Barça Betis, qui était un match de toute beauté. Un petit mot quand même sur le but de Fekir, on aura l'occasion d'en reparler plein de fois. C'est déjà le patron du Bétis, hein. Et démarrer sa carrière par un but au Camp Nou, même s'il y a une défaite 5-2 après, c'est quand même
une belle quand même.
Ouais, je pense que la Liga lui va aller très bien.
Exactement.
La vie à Séville, il va lui aller très bien et qu'il va s'épanouir très tranquillement là-bas.
Et comme j'ai dit la semaine dernière, c'est un très bon joueur et il l'a montré hier.
Exactement. Non mais arrête, il l'a montré hier, mais arrête.
Non, il l'a montré déjà depuis longtemps.
Mais c'est une capacité d'adaptation.
Je dis pas que Fekir a fait un grand match hier, il a marqué un but, d'accord.
Mais sur la première mi-temps,
ok, mais Barcelone sur la première mi-temps, excuse-moi, il y a eu quelques déchets quand même. Quand ça accélère sur la deuxième mi-temps, comme il a toujours fait, il a totalement disparu. Alors je te dis pas pas que c'est facile, mais me dites pas qu'il a fait un grand match hier.
On le sait, mais ses limites, elles sont ce qu'elles sont.
Mais là, c'est pas les limites.
Que c'est un beau joueur de foot et que c'est
le Bétis,
c'est la Liga, lui iront très bien.
Hier, c'est pas ses limites individuelles. C'est qu'à un moment donné, comme tu l'as dit, le Barça a repris la main et Fekir ou pas Fekir, c'était mort. Mais au moment où il a eu la main, Fekir,
s'il avait pu aller dans un club plus grand et s'imposer dans un club plus grand, on l'aurait su depuis longtemps et les clubs se seraient manifestés. Il va au Bétis parce que c'est un club qui, je pense, est à sa mesure, que lui va s'y épanouir et qu'au final, je pense que c'est une bonne nouvelle pour lui. Ouais. Et s'il faut lui souhaiter du bien à Fekir,
on voulait pas parler de Fekir, là,
la Liga et le Bétis, c'est très bien pour lui, voilà.
Voilà, on aura l'occasion d'en reparler, mais je suis tout à fait d'accord avec Daniel. Alors Griezmann, hier soir, c'est quand même deux buts, de très jolis buts. Et une passe décisive, quoi. Donc, franchement, Grisou, j'ai eu l'occasion de parler avec lui aujourd'hui, et il est heureux à Barcelone. C'est pas quelqu'un qui doute, c'est quelqu'un qui savait que ça allait arriver à un moment ou à un autre, que c'était compliqué, bien entendu, d'arriver dans un, pas dans un autre pays, mais dans une autre philosophie de jeu. Le mec, il vient de passer 5 ans avec Simeone. Vous imaginez, arriver au Barça? Enfin, c'est quasiment changé de pays.
Il est passé de l'impact à la technique.
Et voilà, Fred,
tu sais qu'ici, il y a énormément. On est quand même un pays en matière de football de chouineurs, de ces supporters qui défendent les vedettes, qui ne prouvent pas ou pas assez, où il faut. C'est le pays de l'indulgence. Griezmann, tout Griezmann qu'il est, avec les saisons extraordinaires à l'Atlético. Après une seule journée, il a essuyé une conf au Valverde.
Ouais, là, un peu.
On a parlé comme si c'était le dernier des tocards qui venait d'arriver.
Il se prenne en main, il faut qu'il fasse.
Mais en Espagne, voilà, personne n'a chouiné. Qu'est-ce que fait Griezmann dans la foulée? Il te fait un match de malade, deux super buts, passe des, personne chouine. Et mais ça Daniel, se bouge le cul.
Ici, c'est toujours. Ici,
c'est. Oh, Neymar, il fait ce qu'il veut. Neymar, il est trop fort. Neymar, il est ceci. Neymar, on lit sur le cul. Et voilà. Non, Griezmann, Valverde, première conf, premier match. Moi, alors franchement, je l'ai lu, je dis putain, c'est fort, c'est sévère, il abuse un peu Valverde. Mais personne a chouiné, personne n'a trouvé ça anormal. Mais ici, l'exigence, c'est non. Ici, c'est l'indulgence.
Non. Ah ben non, au Barça, et Griezmann s'était fait vachement critique après le
match.
Et moi, je trouvais ça un peu dur contre Antoine parce que c'était le Barça à Bilbao avait été très mauvais. Il était perdu à gauche, il savait pas trop où il était. On a vu par exemple des pertes de balles à cause d'une incompréhension mais technique entre Jordi Alba et Griezmann après la blessure de Suarez. Il joue dans l'axe, etc. Bref, hier il était le patron, il était tout seul parce qu'il a joué quand même avec Rafinha et Carles Pérez qui est un jeune de l'équipe B. Bon, c'était vraiment le patron puisque Messi blessé, Dembélé blessé, Suarez blessé et Griezmann a pris les choses en main. Et j'oserais même dire que dans un rôle de faux numéro 9, si d'un moment Suarez a plus vraiment les moyens de jouer dans cette équipe, mais il est magnifique parce que Griezmann, il a cette intelligence de jeu et cette capacité à venir derrière chercher des ballons. Tu vois les deux buts qu'il a marqués hier. Le premier, c'est un but de vrai numéro 9. Le deuxième, c'est un but de mec libre,
de classe, quoi.
De classe pure. Tu vois, il est capable de tout faire.
De classe, Fred. Et tu l'as dit là en disant, il vient chercher les ballons. Évidemment, tout ce qu'il a fait. Et réappris avec Simeone. Il y a aussi ça que moi je veux qu'on souligne chez Griezmann. C'est un grand joueur qui ne sera jamais le Platini de l'équipe de France, comme on a pu à un moment donné le penser, ou un ballon d'or individuel, au sens où c'est un gars qui peut s'incarner très bien dans un collectif. Et c'est pour ça que ça peut très bien se passer avec Messi et avec quiconque. Parce que Griezmann.
Parce qu'il est politique aussi. Parce que déjà, je te coupe. Ouais. Mais t'as entendu ce qu'il a dit après sur le but fantastique, cette frappe du gauche.
Il a dit j'ai vu Messi faire ça.
Et à l'entraînement,
il est malin. Il est malin, mais ce que je veux dire, c'est par rapport à ce qu'il fait, que ce soit avec les Bleus, si vous regardez bien. Ce qu'il court, ce qu'il fait, ce qu'il a évidemment aussi appris en club, mais ce qu'il a envie de faire. Griezmann, à part. Un petit moment où il est parti sur l'ego, sur son ballon d'or, il a demandé à l'équipe de le soutenir, il voulait les unes de l'équipe, il voulait tout ça, tu vois, en 2016. Il a eu ce petit moment-là où il s'est un peu, à mon avis, un petit peu perdu dans sa com, alors que vraiment, Griezmann, il est toujours le gars de Mâcon, c'est un gars simplissime. Moi, vous savez que je viens du monde des courses et qu'il a acheté des chevaux là très récemment et qu'il vient dès qu'il peut pour les voir. C'est un gars d'une simplicité, et donc ce truc-là, je trouve que je le retrouve. C'est-à-dire que c'est une des stars, mais ce sera pas la star absolue, le sauveur.
Une barquette de frites avec lui à Vincennes.
Non, mais c'est un gars incroyable hein, pour ça. C'est un gars qui, avec son père, est turfiste et il rêve d'avoir ça.
De frites autour des chevaux.
Ah non, au hippodrome, non. Non, pas vraiment. Non,
tu vas au resto du hippodrome.
Si, au croisé de la Roche.
Ah ici. Oui, t'as raison. Dans les hippodromes, dans les petits hippodromes de province, ça peut se faire. Ah, mais dans le nouveau Longchamp, pas vraiment. Aussi, moi, tu sais. Dans le nouveau Longchamp, pas vraiment.
Mais tu vois, mais ça fait plaisir ce que tu dis parce que les gens ont parfois une fausse image. Parce qu'il s'est trompé parfois dans sa communication. Tu vois, parce qu'il a pas.
Mais ça, il faut quand même le dire aussi.
Voilà, il y a eu des erreurs, etc.
Et quoi qu'on en dise, ça peut être un mec. Il a quand même un côté star.
Oui, un ego.
Géré. Voilà.
Ah oui, c'est sûr. Ouais, mais par exemple,
on peut pas dire que. Parce que je pense qu'à ce niveau-là, on ne peut malheureusement plus l'être tellement. Il n'est pas non plus. On peut pas dire que c'est le mec simple non plus.
Pas forcément.
Et on s'en fout. Franchement,
non, mais bien sûr. Bien sûr. Non, mais t'as raison.
Non, mais tu sais, c'est important pour rentrer dans le vestiaire du Barça. Non,
mais attends, mais Fred, on s'en tape qu'il ait le chou, le recul, qu'il soit sympa, pas sympa.
Qu'il ait le chou et qu'il fasse des efforts pour les autres sur le terrain.
Non, mais quand tu le vois jouer depuis des années, moi, je suis pas surpris de ça. Et encore, il faut pas le juger que sur ce match-là, parce qu'il y en aura d'autres.
Mais c'est toute sa carrière avant.
Mais à Barcelone, bien sûr que moi, je disais à Fred, il passe de l'impact à la technique. Bah, c'est vrai que là, il va être surpris de toucher un peu plus de fois le ballon.
À l'Atlético, il y avait quand même un paquet de joueurs techniques aussi, quand même.
Ah bon ?
Oui, mais qui était corseté.
Un paquet de joueurs techniques. Alors vas-y, dis-moi.
Il a raison, Daniel.
Dans quelle équipe ?
Non, mais Saúl Ñíguez, c'est un joueur technique ?
Ah bah oui hein.
Coquet, c'est un joueur technique.
Oui,
c'est
pas technique. Sauf qu'ils étaient dans un rôle beaucoup.
Niguez, Coquet, Gabri, les deux latéraux,
Ils font que courir après le ballon. Bah, attends, qu'est-ce que tu me racontes? Mais écoute, et Gris.
Non, Jérôme. Que la tactique.
Mais sur les deux dernières années à l'Atlético, c'est ça.
Ça n'était pas technique. Mais ça, tu peux pas dire ça.
Mais tu rigoles. Et je peux te dire, en allant, je vais pas donner des noms de joueurs qui m'ont dit.
On passe à la suite.
T'imagines quoi, et ce mec-là.
Liverpool! Liverpool. Deuxième gros titre ce soir. Mais là, c'est fini, parce qu'on n'a pas le temps, il est déjà 22h20. Liverpool fait fort en Angleterre ce week-end, Julien!
Oui, effectivement, victoire 3-1 contre Arsenal à domicile. Alors, encore une fois, si tout n'avait pas été parfait, et si beaucoup de gens en Angleterre ont cru à un moment qu'Arsenal pourrait peut-être un petit peu les bousculer dans cette rencontre, parce que lors de leurs deux premières journées, ils avaient montré quelques faiblesses, notamment défensivement. Je pense qu'ils ont remis tout le monde d'accord, ils ont remis tous les réglages à l'heure. C'était un très très bon Liverpool, un très très bon Mo Salah aussi, notamment son deuxième but qui est assez exceptionnel.
Une
large victoire de Liverpool. C'est leur 12e victoire de suite en championnat, c'est-à-dire ils égalent le meilleur record de leur histoire qui avait été fait sous Dalglish en 1990. C'est pour vous dire quand ça remonte. Donc 12 victoires d'affilée et à domicile, c'est encore pire. Ça fait 42 matchs sans défaite à Anfield en championnat. Hein. 32 victoires, 10 matchs nuls. C'est le deuxième meilleur total de l'histoire du football anglais, donc en 126 ans. C'est Chelsea qui a fait mieux avec 86, qui avait commencé sous Mourinho en 2004 et fini en 2008. Mais en ce moment, c'est du très très bon Liverpool, surtout à domicile.
Bah, on a revu
Klopp l'avait. Exactement. Mais ce que Klopp avait prévenu, Daniel, Klopp avait dit, vous en faites pas pour nous, c'est le début de saison, mais on va monter en puissance. Et ils sont déjà en puissance, ils sont en tête de la Première Ligue, bien sûr. Ouais, avec
c'est simple, en fait, il n'y a pas eu de match.
C'est vrai que là, ils ont impressionné.
Il n'y a pas eu de match, ils les ont broyés petit à petit. Alors, ils ont mis un peu de temps à trouver l'ouverture. Et puis, quand c'est venu, il y a eu la fameuse balle de contre de Pépé. On peut effectivement faire une petite parenthèse là-dessus parce que confiance lui a été accordée et c'est vrai qu'à un moment il faut bien le lancer et que sur cette action plutôt rondement menée, sur la finition il a complètement raté le pauvre. Je suis pas sûr que ça aurait complètement changé les données du match, mais c'est la seule parenthèse pour Arsenal, juste cette action, ce cost to cost et puis c'est tout. Le reste ils se sont fait broyer de tous les côtés.
Surpris, c'était...
Non, on n'est pas surpris. Arsenal n'est pas assez fort pour rivaliser avec Liverpool. Voir à chaque fois cette machine continue d'avancer et je le répète, en fait c'est une machine et avec trois éléments complètement pratiquement distincts des autres. Parce que ils sont tellement forts les trois et Firmino, je trouve que c'est un de ceux dont on parle le moins dans les trois. Il est lui tellement extraordinaire dans ce rôle de faux neuf quasi 10 à distribuer avec les deux merveilleux attaquants qui sont sur les côtés. Moi cette équipe de Liverpool, elle me séduit mais vraiment beaucoup.
Moi ce qui me Je vais même pas parler d'Arsenal parce qu'encore une fois on est déçus et puis tous les supporters d'Arsenal ils vont me dire que je suis un anti-Gunners, mais bon, peu importe.
Anti-Gunners de quoi? T'as le droit de te poser des questions sur les choix.
Emery de toute façon,
toutes les équipes.
On va y revenir d'ailleurs.
Torreira qui joue pas, je comprends pas.
Toutes les équipes d'Emery à l'extérieur et ça dure. Hein, et c'est une stat qu'on parlait déjà au PSG. Alors imagine Arsenal, toutes les équipes d'Emery à l'extérieur, elles prennent l'eau contre les grosses. Hein, je te parle. Donc c'était encore le cas. C'est sûr que là-bas, même un très bon Arsenal aura eu du mal à résister à ce Liverpool-là parce que ils ont une façon de jouer à domicile avec toute la confiance, comme disait Julien, quand tu passes 42 matchs sans défaite chez toi, c'est sûr que là tu peux même prendre un ou deux buts, tu sais que tu vas revenir dans le match dans tous les cas. Après ils ont des dynamiteurs devant, mais surtout le milieu de terrain, encore une fois il a fait le choix de laisser Milner au repos, du moins en remplaçant. Il joue avec Wijnaldum, Henderson et Fabinho, les trois là c'est incroyable. Après la qualité technique des latéraux, des joueurs devant, qu'est-ce que tu veux faire ? Dire, c'est compliqué. Moi, de toute façon, on peut que parler de Liverpool et encore dire, Arsenal, il va falloir attendre encore une année.
Si Arsenal, tu peux te poser des questions. Après, ils sont en retard par rapport au gros. Désormais, Arsenal.
Non, mais comment tu joues avec Chaka ?
Tous les ans, Chaka, c'est ton homme de base
au milieu de terrain. Putain, mais faut arrêter les conneries.
On continue le débat dans quelques instants.
Non, mais le truc, ils auront la quatrième place.
Le truc, c'est. Alors, sur Arsenal. Klopp, par exemple, a été très intéressant après le match en disant que lui-même avait été surpris par les choix d'Emery dans sa composition d'équipe, donc des 11 titulaires. Sous-entendu, pourquoi pas Lacazette, pourquoi pas Torreira et pourquoi ce milieu en losange avec un Dani Ceballos qui a joué bien trop haut, ou en tout cas sa position était bien trop haute pour avoir une influence sur le jeu, comme on l'avait vu notamment contre Burnley le week-end dernier. Et lui, Emery, a fait encore plus fort que Klopp, c'est-à-dire que lui a expliqué que finalement, c'est mieux que l'année dernière, parce que cette fois, ils ont perdu que 3-1, comparé à 5-1 l'année dernière. Ah ouais. Et si tu commences déjà à dire que ton entraîneur, il est content, qu'il voit presque ça comme une victoire, que tu en prennes que 3 à Liverpool et pas 5 la saison précédente, c'est qu'il y a quand même un truc qui va bien.
Non, mais
sinon, j'ai aussi, juste pour finir sur ça.
Et après, on fera la pause.
Juste pour finir. Voilà, j'ai la stat qui sert à rien quand même, parce que j'en ai une ce soir. Virgil van Dijk a été dribblé pour la première fois en 50 matchs. Depuis qu'il est à Liverpool, il a été dribblé par Nicolas Pepe.
Non, donc, c'était, voilà. Mais je crois que c'était arrivé il y a pas très longtemps aussi. Il me semble que dernièrement, il avait été.
Ah non, il avait pas.
Non. C'est la première fois.
Ça n'avait pas été compté comme un vrai dribble. Là, il a vraiment été dribblé. Pepe lui a fait. Voilà. Mais bon, à part ça, c'est tout ce qu'on peut souligner pour Arsenal.
Dans quelques instants, l'Allemagne au programme et le reste de l'actu espagnole, anglaise, évidemment, dans l'after. On revient tout de suite. Après.
RMC, 21h30.
L'after foot, Gilbert Bribois.
Et on est là avec Julien Cazère, avec dans quelques instants Julien Cazère, parce qu'il est déjà là, en train de faire le fou, donc c'est pour ça que je le cite. Il arrive dans un petit quart d'heure, Daniel Riolo, Jérôme Bretagne et Florent Gautreau, bien sûr, les drôles de l'âme. Polo, il faut qu'on parle du Bayern et de Dortmund, alors même si pour l'instant, évidemment...
J'avais une question.
Ah oui, ta question, j'ai oublié Fred.
C'est super rapide, parce qu'on se demande ici, le marché ferme lundi. Julien, y a-t-il une petite possibilité que Manchester United accepte une offre pour Pogba? Pour le Real.
Impossible. Ils ont été tellement mauvais samedi, vraiment tellement mauvais contre Crystal Palace lors de leur défaite, que c'est impossible qu'ils les laissent partir. Ils ont perdu Martial sur blessure, ils ont perdu Shaw sur blessure, ils ont encore raté un penalty, ils ont été vraiment mauvais, même Maguire. Et ce serait suicidaire de leur part de laisser partir.
Maguire, merde, pourtant 90 millions, ça.
Non, puis tu es en train de me dire que Solskjaer serait peut-être une banane.
Non, tu rigoles, c'est super entraîneur, c'est grâce à lui le 3-1.
C'est le moral de Fred, là.
C'est le travail tactique du
Bayern. Non, mais parce que comme Neymar va pas venir,
désolé, Fred.
Non, mais moi, je te fais confiance.
Le gros travail tactique, quand même, ce soir-là, bien sûr.
Écoute, ça me fait plaisir d'entendre qu'ils sont en grande difficulté, même en début de saison.
Bayern Dortmund, pour l'instant le trou n'est pas fait en Bundesliga évidemment, hein, après deux journées, parce que même Fribourg a 6 points, petit Polo par exemple.
Oui.
Mais excellent là, ouais, t'aimes bien Fribourg? Le stade de la Forêt-Noire.
C'est un club francophone, vous parliez de formation, que les responsables en France aillent à Fribourg.
Ah, d'accord.
C'est pas loin en plus, pratique, c'est juste à côté de la frontière.
Oui.
Le Bayern et Dortmund, raconte.
Bon, écoute, il est difficile de tirer des conclusions définitives parce que certains joueurs sont blessés, les schémas sont pas encore complètement figés. Je voudrais juste dire que le Bayern, donc l'a emporté 3-0 à Schalke, ce qui est évidemment toujours un petit peu une performance, l'emporter à Schalke. Mais ce qui est sûr aussi, c'est que l'équipe de Schalke cette année est assez, fait quand même vraiment peur. Moi, je voudrais appuyer sur le fait qu'il y avait 4 Français quand même sur le terrain au départ de la rencontre, qu'on a souvent joué dans une défense à 3, donc ça pourrait être intéressant pour Pavard. nonobstant le fait évidemment les blessés, puisque Thiago Alcantara l'était et Goretzka aussi. Je voudrais surtout souligner le fait que Coutinho est quand même rentré à l'heure de jeu et il a été positionné, c'est un peu ce qui circule en Allemagne, plutôt en position de numéro 10. Ce qui est intéressant évidemment pour un Français, c'est Coman, mais qui est évidemment plus compliqué pour un autre, qui est Tolisso. Il a remplacé Müller à l'heure de jeu, donc c'était intéressant à ce niveau-là. On voit tout de suite la classe qu'il a. Maintenant, dans le jeu et le fond de jeu du Bayern, je pense qu'ils doivent encore beaucoup s'améliorer. On ne sait pas, donc ils ont plutôt joué dans une défense à 3, je ne sais pas, moi je pars plutôt du principe du 4-3-3 de Niko Kovac. C'est intéressant à ce niveau-là. Ils doivent vraiment monter en gamme, parce que lorsque Schalke a poussé, honnêtement, c'était compliqué pour le Bayern, sauf qu'il y a un attaquant qui est de classe internationale, pour vous suivre un petit peu, qui s'appelle Robert Lewandowski, qui est en feu depuis le début de saison. Il a mis un triplé, il en est à 5 buts en 2 rencontres.
C'est vrai, il a arrêté de chouiner là, genre j'ai personne pour me donner les ballons et tout, il est content maintenant.
Enfin, bon, Lewandowski, on le connaît un petit peu.
Attends,
quand même.
Sinon, on lui remet Ludovic Obraniak, ça marchait bien.
Polo, d'ailleurs, il a une stat incroyable, je voyais une moyenne de buts par match qui était énorme, toute proche de celle de Gerd Müller, c'est ça ou,
ouais, alors quand ça. Même pas Gerd Müller, faut pas exagérer non plus. Mais ce qui est sûr, c'est qu'attends, il doit en être à 207 buts, c'est-à-dire qu'il est plus qu'à 13 buts de Jupp Heynckes, qui était quand même le troisième plus grand buteur de la Bundesliga, donc c'est-à-dire qu'il va les battre. Ouais, c'est assez impressionnant, Lewandowski. De toute façon, pour moi, il a toujours été un des plus grands attaquants en Europe, et c'est pour ça d'ailleurs souvent que lui, lorsqu'il y avait des rumeurs au Real, pardon Fred, c'est pour ça qu'il aimait bien se positionner lui-même, tu vois, un petit peu quelquefois. Mais c'est sûr que là, bon, depuis le début de saison, c'est pour ça que j'ai pas envie, si vous voulez, de me positionner sur la qualité de ce Bayern-là qui est encore en construction, et Coutinho d'ailleurs qui est pas au top physiquement. Ce qui est sûr, c'est que la baraque aujourd'hui, elle est tenue par Lewandowski. On verra dans quelques semaines ce que ce sera.
Un mot sur Francfort, parce qu'il y a le match contre Strasbourg dans 3 jours. Bas Dost a signé. Ouais. Et il y a quelques incertains. Alors, Bas Dost,
combien quand il a été recruté?
7 millions.
Ah ouais, quand même. Ouais, ouais, en même temps, il est moitié moins fort que Benedetto, hein, donc normal qu'il coûte la moitié du prix.
Non, mais alors bon, pour Francfort, c'est un peu la crise quand même, faut le dire. On est passé d'un match qui devait être supposé être facile contre Strasbourg au match de l'année, quand même.
Juste Dost jouera pas contre Strasbourg. Hein.
Non, Bas Dost jouera pas contre Strasbourg. D'ailleurs, on sait pas trop quelle équipe on aura, parce que Rebic, alors là, c'est un feuilleton, mais ça, c'est Ante Rebic aussi. Rappelez-vous qu'il a été sorti à la mi-temps du match contre Strasbourg. Officiellement, c'est lui qui a demandé à sortir, que à 18h voulait aussi le sortir tellement il était pitoyable, et on apprend le lendemain qu'il a des problèmes au mollet. Idem pour Kasinovic. Rode, même s'il a fait du vélo aujourd'hui, est blessé. Abraham est aussi sorti de sa rencontre, lors de la rencontre contre Leipzig. Alors la prestation de Francfort était très très intéressante par rapport à celle qu'ils ont en fait contre...
Abraham, s'il pouvait jouer jeudi, ça serait mieux.
Pardon ?
C'est mieux pour Strasbourg,
ouais,
tu veux dire ?
Ouais, ouais. Voilà, Strasbourg, avec tout ce que tu dis, ça passe tranquille.
C'est vrai, non, c'est pas ça. C'est que ce qui est très intéressant, on a beaucoup discuté avec Gilbert. En fait, il est revenu avec deux attaquants. Le problème, c'est qu'Ante Rebic, c'est la dernière semaine du mercato, et on n'est pas persuadé qu'Ante Rebic soit encore là, et notamment jeudi. Officiellement, il y a des demandes, il n'y a pas d'offre pour Ante Rebic, pour le Croate. Donc, c'est assez intéressant. Mais il faut aussi une petite anecdote quand même, c'est que Ante Rebic, en fait, il se disait à la fin de la saison dernière, déjà qu'il était en partance, et que surtout il avait plus ou moins accusé l'ensemble de ses coéquipiers d'être les responsables de la non-qualification en Ligue des Champions. Donc si tu veux, dans le vestiaire, c'est pas forcément extraordinaire.
Hein,
et nous, on attendait tous, honnêtement, quand on suivait le truc, que Ante Rebic se barre. Le problème, c'est que là, on est à une semaine, on l'a recadré très clairement via 18h, mais on ne sait pas encore là s'il sera, je sais même pas s'il sera là, honnêtement, jeudi, sur le terrain. Ce qui pose le problème de l'effectif. Ce qui est sûr, c'est que contre Leipzig, ils ont fait une prestation assez intéressante, notamment en mettant deux attaquants, le jeune supposé successeur de Jovic, Jovelcic. Et puis, ils ont mis Paciencia, dont je vous avais un petit peu parlé la semaine dernière, qui est plus qu'un remplaçant, qui fait sa place, mais encore faut-il bien le gérer, ce qui n'est pas le cas, à mon point de vue, de la perte des 8 heures. Ce qui est sûr, c'est qu'on va avoir une ambiance d'enfer. C'est un match qui devient très, très important. Certains cadres du vestiaire de l'Eintracht ont commencé à pousser, entre guillemets, des coups de gueule, comme quoi ça va, quoi. Et on attend une prestation de Francfort digne de son nom.
Alors, ça me permet justement de faire une petite passe à Julien Laurence, parce que Sébastien Haller, qui lui vient de Francfort, a brillé ce week-end. Ah, on a perdu Julien peut-être. Décidément.
Ah, toutes les semaines, il y a un souci de communication.
Je peux dire un truc, moi, en attendant pour
Il est bon, celui-là. C'est le Tébasse des drôles de l'âme. T'as vu, dès qu'il peut placer un truc, vas-y, Fredo.
Non, mais vous savez qui est le leader de la... Vous vous souvenez, l'an dernier, les 4 mois à Anus Horribilis de Julen Lopetegui, quand même, qui en 4 mois avait perdu, avait été viré du mondial, viré de la sélection espagnole et viré du Real. Eh ben, le monsieur, il a repris Séville, on le sait pas assez, il a pris l'équipe de Séville, pas de bêtises, hein, le Séville FC. Deux matchs à l'extérieur, deux victoires, et leader de la première division espagnole de la Liga.
Ça n'a pas duré, ça.
Ouais, mais
bon, sinon, écoute, si Julien n'est pas là, on peut quand même dire qu'il y a un énorme escroc en tête du classement des buteurs de la première ligue, quoi.
Ah.
C'est qui? C'est Pukki.
Pukki le Finlandais?
Pukki le Finlandais, ouais. Attends, le mec, je l'ai vu à Schalke, il avançait pas, c'était horrible ce qu'il faisait. Par contre, dès qu'il part d'Allemagne, il est spécialiste pour flinguer les équipes allemandes, notamment pour les qualifications en Europe. Il était à Bondy, c'est lui qui a sorti le Hertha Berlin, tu vois, il fait un match, il met 3 buts, puis après il fait plus rien.
C'est ce qu'il s'appelle.
Moi j'adore son nom, Pukki.
Il est où?
Il est
où,
lui,
Pukki?
À Schalke.
Il est à Norwich, je crois.
Il était à Schalke.
C'est ça
la corrélation entre certains joueurs et quand on dit ce championnat va lui aller. ça arrive, c'est vrai que ça peut être le cas, c'est pas très sérieux, Pukki.
Non mais je parle sous le contrôle de Julien, évidemment.
Ouais, c'est ça, tu l'imagines pas dans un clip de rap, quoi. Tu vois.
Ah non, Pukki, non, non. Non, dans un dessin animé avec Choupi qui arrive, quoi.
Bisounours, quoi, tu vois.
Voilà, c'est ça.
Sinon, je peux combler aussi avec d'autres trucs.
Non, mais on n'a pas besoin de combler puisqu'on arrive au bout.
On
arrive au bout, les gars.
Il a fini sa
Dortmund quand même, non?
Vas-y,
Paul. Dortmund a eu beaucoup de soucis. Alors, ils ont dominé évidemment Cologne, qui est une équipe très compacte et qui arrive de seconde division. Ce qui est très intéressant, c'est que Lucien Favre a été forcé de changer son schéma, puisque pour la deuxième fois depuis le début du championnat, Dortmund est mené. Donc, pour faire un favori de la Bundesliga, c'est quand même parfois un peu compliqué. Et donc, il a été forcé de changer son schéma de jeu. 4-2-3-1 en faisant rentrer Julian Brand à la place d'un autre Julian, c'est Weigl. Et là, ça a marché. Ils ont marqué à la 86e minute, mais il y a encore là aussi des progrès à faire du côté de Dortmund pour en faire un favori absolu de la Bundesliga. Juste, je finis avant de passer le relais. J4. Dortmund Leverkusen, Leipzig Bayern. Je pense qu'on y verra un peu plus clair.
Ah, d'accord.
30 secondes, messieurs. Pour 30 secondes, mais rapide. Ah, ça y est, parce que il y a plein de gens qui m'ont posé la question. Rodrigo Moreno de Valence devrait signer dans les prochaines heures avec l'Atlético. On y reviendra dans les prochaines semaines. Mais l'Atlético, ils ont fait un recrutement de folie.
Moreno à l'Atlético. Donc ça sent pas bon pour un Marseillais.
Tout ça me rappelle depuis le temps qu'on n'a pas de nouvelles de Dario Moreno, son frère.
Gilbert, confirmation des contacts entre le Bayer Leverkusen et le Bayern Munich l'année prochaine pour un certain Kai Havertz.
Ah ben voilà, c'est parti. Ils sont là, le Bayern.
Il est déjà dans le mercato de l'année prochaine.
Oui, c'est Polo. Ça, c'est le Bayern.
C'est le Polo, c'est l'anticipation, voilà. Ça.
Il y avait Dario Moreno, il y avait Eric aussi, Moreno.
Eric Moreno.
Non, Eric Morena.
Ah, Morena, pas.
Oh, mon bateau. Tu es le plus beau des bateaux.
Là, ça me fait penser que la fête du citron de menton, Daniel, c'est du 15 février au 4 mars. Si tu veux y aller, en 2020, on va s'en occuper. Je vous rappelle.
Et la fête du melon, c'est pour quand?
Salut Polo, salut Fred.